Vous écoutez, on lit pour vous.
Autochtones et allochtones s'unissent pour l'avenir du CAAL. Un texte de Gabriel Ferland, paru le 2 avril 2025 dans L'Action d'Autré. Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, CAAL, a récemment convié la communauté lanaudoise pour le lancement d'une importante campagne de financement. L'organisme souhaite récolter 3 millions de dollars pour lancer la construction d'un nouveau centre multiservice dont la valeur totale est estimée à 24 millions de dollars, qui comblera les besoins grandissants de la population autochtone de la région. Voici le résumé de la conférence de presse qui s'est tenue le 27 mars dernier au Musée d'art de Joliette. Mamo Maniketan, qui signifie « Construisons ensemble » en Atikamekw, est le nom choisi pour cette campagne de financement. Selon les données présentées par le CAAL, les besoins sont en forte croissance et la population autochtone de Lanaudière aurait presque doublé entre 2011 et 2021. Ce projet représente donc une étape charnière dans le développement de l'organisme. Évalué à 24 millions de dollars, le nouveau bâtiment comprendra 19 logements abordables temporaires, un CPE, une clinique de proximité, un centre culturel, une boutique, des espaces communautaires, en plus des services déjà offerts. Ainsi, le CAAL pourra continuer à servir ses membres dans un environnement culturellement sécurisant. Les nouveaux locaux créeront également un espace de rencontre pour tous, autochtones et allochtones, grâce à un lieu de diffusion des cultures autochtones. Selon la directrice générale du CAAL, Jennifer Brazo, il s'agit d'un projet issu du terrain, pensé par et pour les membres de la communauté. L'objectif est de créer un véritable mini-village et un lieu d'échange culturel pour la communauté autochtone, mais également pour tous les Lanaudois. L'élan de solidarité autour de Mamo Maniketan démontre que la réconciliation peut se traduire en actions concrètes. Nous construisons ensemble un espace où nos cultures se rencontrent, où nos familles s'épanouissent et où toutes et tous peuvent découvrir la richesse des cultures autochtones en milieu urbain. Chaque contribution à cette campagne renforce cet engagement collectif, affirme Jennifer Brazo. Kitty Miquette. Avec l'engagement actif du président du conseil d'administration, Guy Niqué, la campagne est portée par un cabinet de campagne engagé qui met tout en œuvre pour rallier la communauté à cette cause essentielle. Ce cabinet est composé d'Anne Soucy, directrice générale du Centre d'action bénévole Imlie-Gamelin, de Guy Niqué, de Louis-Simon Lamontagne, président et propriétaire de F-Thériault Incorporé, ainsi que de Yannick Boucher, propriétaire de Meubles Aubaine et copropriétaire du golf Lac Taureau. Grâce au soutien significatif des premiers donateurs, dont la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, qui a contribué à hauteur de 750 000 $, la campagne de financement s'amorce avec un élan remarquable. Le directeur général de la Caisse, Joël Landry, affirme que si l'institution financière est allée de l'avant dans ce projet, c'est notamment en raison de la grande qualité du dossier présenté et parce que tous les devoirs ont été faits. En date du 27 mars, 50 % de l'objectif, qui est fixé à 3 millions de dollars, avait déjà été récolté. Lors de la conférence de presse, les acteurs du projet étaient tous très reconnaissants et fiers de ce départ en force. Guy Niquet a d'ailleurs débuté son discours en disant « Miquet, Kitty Miquet », ce qui veut dire « merci, merci beaucoup » en Atikamekw. Pour la réalisatrice, animatrice et militante, Mélissa Molène-Dupuis, cette campagne de financement représente un changement majeur. Ça change tout. Avant, pour réaliser des projets, on nous ouvrait seulement des fonds de tiroir. Mais on sent que les choses ont changé. Maintenant, on sent vraiment que les gens ont envie de travailler avec nous et de participer activement, a-t-elle affirmé. Le CAAL invite maintenant les entreprises, les organisations et les citoyens à participer. Les fonds recueillis permettront de construire un centre unique qui enrichira le tissu social de la région en offrant un espace où les cultures s'épanouissent, où les familles trouvent un véritable ancrage communautaire et un lieu où les différentes cultures se rencontrent. C'était « Autochtones et allochtones s'unissent pour l'avenir du CAAL ». Un texte de Gabriel Ferland, paru le 2 avril 2025 dans « L'Action d'Autré ».
Léo Pavarotti, l'aventure Star Academy. Une entrevue réalisée par Samuel Rochelle, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. Le 19 janvier 2025, Léo Giroux a fait partie des 4 artistes qui ont pu entrer directement à Star Academy. Un mois plus tard, son élimination a surpris et choqué plusieurs adeptes de la télé-réalité. Avec un peu de recul, le jeune chanteur décortique son parcours. Comment le chant est-il entré dans ta vie? Enfant, je chantais un peu, mais on me disait que je criais dans la maison. On me surnommait Léo Pavarotti, un clin d'œil au chanteur classique. Ma famille avait une troupe musicale qui montait des spectacles. C'était une chorale avec de la mise en scène et des déplacements. J'ai donc été élevé dans cet univers proche des comédies musicales. Vers 10 ans, j'ai commencé à suivre des cours de chant. J'ai participé à des concours, dont La Voix Junior et des trucs plus locaux. Je n'ai jamais gagné, mais j'ai reçu quelques prix du public. Ensuite, j'ai étudié en théâtre musical au Cégep de Sainte-Foy. Pourquoi voulais-tu participer à Star Academy? C'était un de mes plus grands rêves. En 2012, à 7 ans, je suivais l'émission. On est allé voir le spectacle au Colisée Pepsi. Je collectionnais les autographes des académiciens. Quand l'émission est revenue en 2021-2022, je comprenais davantage ce que ça impliquait. Je regardais les émissions et les cours. Je voyais ça comme un tremplin super intéressant qui pouvait me donner beaucoup de bagages. Ton expérience a-t-elle été différente de ce que tu imaginais? En vivant l'aventure, j'ai vu l'envers du décor de la télé-réalité. Je ne m'attendais pas à tout ce que ça implique. Durant les cours, on doit se placer en fonction des caméras. Les profs doivent parfois reprendre des répliques pour que ce soit bon à la caméra. On change les micros et les batteries durant la journée, car tout ce qu'on dit peut être montré à la télé. Sans oublier les moments au confessionnal. Il y a plein de choses à considérer à l'Académie. Quels ont été tes principaux apprentissages musicaux? Un de mes plus gros défis a été de gérer la fatigue vocale, car l'intensité est au cœur de Star Academy. Dès qu'on finit une semaine intense, on en relance une autre tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de repos. On pratique sans arrêt. On apprend des chorégraphies et des déplacements sur la scène. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Heureusement, on est tellement bien entouré que le résultat est bon. Qui étais-tu particulièrement heureux de rencontrer? J'ai beaucoup apprécié Matt Lang. Je le trouvais très authentique. Je me reconnaissais dans sa façon d'agir. Il est terre à terre. Sinon, mon numéro préféré a été celui sur la musique des Rolling Stones avec Garou, Jonathan Roy et France d'Amour. Même si je n'ai pas chanté nécessairement en duo avec eux, l'ensemble du numéro était vraiment le fun. As-tu vécu des moments plus difficiles à l'Académie? Oui, car c'est un grand défi social. C'était ma première expérience de colocation avec 13 autres personnes. Ça s'est super bien passé, mais il y a toujours des moments où tu te remets en question et où tu te compares aux autres. Même si on ne le voyait pas comme une compétition, on se faisait parfois rattraper par l'idée que certains sont meilleurs que nous. On voit leurs belles performances. On peut aussi se sentir tout seul en groupe. Heureusement, on était proches et on se réconfortait entre nous. Comment as-tu vécu le fait d'être coupé de tes proches? Le plus difficile a été d'être coupé de mon amoureux, car on était ensemble depuis peu de temps. C'était déjà un gros défi de se quitter quelque temps pour que je vive cette expérience. Il comprenait super bien pourquoi je faisais ça. C'est de lui dont je m'ennuyais le plus. Tu as passé une audition pour chanter avec Pierre Lapointe la chanson « Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas », qui parle d'enjeux queer. Qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas être sélectionné? Quand Pierre nous a expliqué sa vision de la chanson, je me suis dit que ça aurait été un beau moment que Marco ou moi interprète ce texte, en comprenant et en représentant la différence. J'aurais aimé le faire, mais ça n'a pas à donner. Je suis content que Pierre ait écrit quelque chose comme ça. C'est un message très fort. Quelles émotions t'ont habité après ton élimination? Ma sortie a été mon moment le plus difficile. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon rêve assez rapidement. Un mois à l'Académie, c'est super enrichissant, mais je manque tellement d'expérience sur scène, avec les profs, les artistes invités et les autres académiciens. J'ai été très déçu d'être éliminé. À quoi ressemblent tes ambitions? Je veux faire des comédies musicales. Ça m'appelle depuis longtemps. Je veux monter de grosses productions, vivre un trip de gang et présenter les shows à plusieurs reprises. Un jour, j'aimerais aussi créer ma propre musique pour présenter mon univers aux gens qui m'ont donné beaucoup d'amour durant Star Academy. Je me verrais faire de la musique pop orchestrale populaire. C'était Léo Pavarotti, l'aventure Star Academy. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Iqaluit à son magasin de nourriture traditionnelle, un texte de Bryce Ivanovic, paru le 19 mars 2025 dans le Nunavoie. Après un peu plus d'un mois d'ouverture pilote, le magasin Kinirvik a officiellement ouvert ses portes le 28 février. Viandes et poissons traditionnels et aliments en vrac sont désormais disponibles aux horaires d'ouverture du mercredi au samedi. Un grand moment pour la communauté, l'aboutissement de 2 années de travail pour les co-directeurs Francine Doucet et Joseph Murdoch Flowers. Un grand soleil, un ciel bleu arctique d'une pureté rare. Tous les éléments étaient réunis pour une belle inauguration du nouveau magasin alimentaire communautaire Kinirvik. Les yeux embués par l'émotion, Francine Doucet a eu les premiers mots de remerciement, accompagnée par la députée fédérale Laurie Idlaut, le vice-président de Nunavut Tungavik Inc. NTI, Paul Irngaut, mais aussi Janet Pitsiulak Brewster, députée d'Iqaluit. C'est vraiment un grand moment. Tout le monde est très heureux de cette ouverture, notamment pour le caribou qui est une viande très populaire dans la région de Baffin. Pouvoir venir ici en acheter dans un magasin, oui, c'est une grande célébration, introduit Francine Doucet, qui est également co-directrice du centre communautaire Kajouk-Tourvik, la maison mère de ce projet. Lutter contre l'insécurité alimentaire. Au moment de franchir la porte de l'épicerie, les gens ne s'y trompent pas. Des ombles chevaliers, du phoque, du caribou ou encore du bœuf musqué garnissent les congélateurs contre le mur du bâtiment fraîchement rénové. Côté vrac, le choix est large et varié. Pâtes, riz, lentilles, dans une ambiance parfumée par une multitude d'épices. On y trouve également farine, fruits séchés et base de soupe. Un objectif simple, donner un accès abordable aux produits de chasse et de pêche, permettant de partager la nourriture traditionnelle avec la communauté. Il y avait des lacunes à Iqaluit pour avoir une source fiable d'aliments traditionnels. Certes, beaucoup de gens chassent ou pêchent ici, mais c'est une économie de partage avec la famille, les proches, les amis. Tout le monde n'est pas connecté à ces réseaux, donc il y a des difficultés à trouver ces aliments en ville avec régularité, explique Joseph Murdoch Flowers, co-directeur. Dans la capitale, beaucoup d'Inuits n'ont plus le temps de chasser, ajoute Paul Yangout, vice-président de NTI. Le concept reprend ce qui est pratiqué à Kajouk-Tourvik, situé de l'autre côté du mur. Trois gammes de prix afin de payer selon ses moyens, bas, moyen et plein tarif. Notre programme se construit dans une vision qui vise à augmenter l'accès alimentaire. Le choix est laissé aux consommateurs. Pour combattre l'insécurité alimentaire, il faut se retourner autour des aliments inuits, poursuit Joseph Murdoch Flowers, dans un français parfait. Pour Francine Doucet, ce nouveau magasin démontre une faculté pour les Inuits à reprendre le pouvoir sur nos systèmes alimentaires, avant d'ajouter « Construire un avenir autour de l'alimentation traditionnelle, c'est défendre notre santé et notre bien-être. » Rémunérer la chasse. Pour mener à bien ce projet, Kinirvik s'appuie sur leur partenaire Projet Nunavut afin de se construire un réseau de chasse. Une enveloppe de 141 000 $ a déjà été répartie entre 21 chasseurs sur tout le territoire. Kitik Tarjouak, Clyde River, Taloyak, Arctic Bay, Naou Oujat et Arviat. L'été, l'organisation à but non lucratif se tourne également vers une pêche plus locale, ici à Iqaluit. Rémunérer la chasse a un impact important sur les communautés et pour le territoire. On paye les chasseurs pour leur travail, qui, d'une pêche personnelle au départ, vont pouvoir viser plus large. Nous voulons introduire la chasse comme carrière, affirme Joseph Murdoch Flowers. La députée fédérale Laurie Idlout y voit une grande opportunité pour le développement économique autour de la chasse et de la pêche, avec comme moteur la capitale Nunavummiut. De quoi susciter à nouveau des vocations auprès de la jeune génération inuite? Oui, c'est ce que je pense. C'est une opportunité de pouvoir donner ou vendre de la nourriture traditionnelle ici, à Iqaluit, qu'on n'avait pas auparavant, conclut Paul Irngaut. Le magasin est ouvert du mercredi au vendredi, entre 11h et 18h, et de 10h à 17h le samedi. C'était Iqaluit à son magasin de nourriture traditionnelle, un texte de Bryce Ivanovic, paru le 19 mars 2025 dans le Nunavoie.
Aller-retour pour Toronto. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Le caricaturiste Robert Lapalme avait à peu près la même petite taille que Toulouse-Lautrec, cet affichiste de génie qui inspirait en partie ses dessins désinvoltes de caricaturiste au Devoir. Lorsque, à l'occasion, je sortais en ville avec mon vieil ami Lapalme, il se montrait toujours bien mis, avec sa canne à pommeau d'argent et son éternel nœud papillon accroché au col de sa chemise. Son élégance de dandy, rigoureusement entretenue, le situait en marge du temps. Avec moi si grand à ses côtés, nous formions une sorte de duo improbable à la Mutt and Jeff, les personnages de Bud Fisher dont il collectionnait les originaux. Un de mes dessins préférés de Lapalme reste un autoportrait réalisé en 1954. Lapalme s'y montre en plein cœur de Paris, l'air complètement ahuri, un verre à la main, la mine basse. Il est assis sur une chaise du Café de Flore, lieu emblématique de la vie parisienne. Les pieds de Lapalme ne touchent pas à terre tant il est petit. Pour faire contraste, il s'est représenté minuscule entre deux longues jeunes femmes, tout en jambes et en rondeur. Derrière, sur une colonne Maurice, il est question d'ardents désirs, des folies bergères, de Gina Lolo Brigida. Un serveur passe, tout sourire. Un gendarme, à l'air circonspect, jette un œil discret. Tout autour, la vie pétille. La tour Eiffel et Notre-Dame apparaissent. Et Lapalme, au milieu de toute cette scène joyeuse, apparaît abattu, déprimé, absent, les yeux pochés, la larme à l'œil. À quoi pense-t-il donc pour paraître avec cette tête d'enterrement? La légende du dessin nous le dit. Sanglotant, et penser que je pourrais être à Toronto ce soir. Toronto eut longtemps la réputation d'être une ville ennuyeuse au possible. On s'y couchait tôt. Les bistrots et les restos semblaient vouloir se soustraire au public. Les trottoirs étaient déserts, comme si personne n'avait l'idée d'exister une fois le soleil couché. Les temps ont changé. Toronto est devenue une ville assez formidable, animée, vivante. Il ne manque qu'un train digne de ce nom pour s'y rendre. Dans les années 1950, au temps où Lapalme se moquait gentiment de Toronto, bien des gens montraient plutôt une vive curiosité pour les profondeurs marines. La fosse des Mariannes, avec ses quelques 11 000 mètres sous la surface, qui parviendrait à les explorer? Les films du commandant Cousteau, toujours coiffé de son bonnet rouge, suscitaient le plus grand intérêt. Il était question d'un avenir pour l'humanité imaginé dans les profondeurs océaniques. À l'heure où il manquait déjà de logements pour des populations entières, on se demandait sans rire quand pourraient se construire des complexes d'habitation sous la mer. Les aventures fantasmées du capitaine Nemo, la figure légendaire créée par Jules Verne, n'était pas loin. La mémoire de ce passé quelque peu halluciné fait entendre sa résonance avec notre présent. Quand certains se prennent à croire que l'avenir humain se joue désormais sur Mars, c'est au fond à une simple inversion de cette ancienne diversion face au malheur planétaire que l'on assiste. Projeter l'humanité en l'air, comme l'envisagent des milliardaires, constitue une nouvelle forme d'un vieil aveuglement face au problème de la Terre. Comment ces gens croient-ils changer le monde parce qu'ils parcourent à la verticale, vaguement la distance entre Montréal et Toronto? Récemment, 6 femmes se sont mises en scène dans l'espace pour un voyage d'une durée de 11 minutes. Leur vol était propulsé par Blue Origin, une entreprise de Jeff Bezos, un de ces milliardaires qui ont donné la main au trumpisme. Les médias du monde entier ont diffusé les images de cette envolée, puis les déclarations décomplexées des principales intéressées. « Ce voyage n'est pas à propos de moi, C'est à propos de la Terre, a affirmé la chanteuse Katy Perry, sans s'attarder au fait qu'elle venait de produire l'équivalent de 8 années de déchets atmosphériques. C'est cher, mais si on envoie davantage de gens dans l'espace, ça le sera moins, a affirmé pour sa part sa consœur Gayle King. En attendant, on sait désormais que repousser les limites de la connerie n'a, pour ces gens-là, pas de prix. En habillant leur futilité d'un vernis féministe, ces exploratrices en simili jettent un voile sur le travail de véritables scientifiques qui, elles, travaillent d'arrache-pied depuis des années. Quand pareils milliardaires remettront-ils le pied sur Terre? À la radio de NPR, un professeur de Harvard se disait complètement abasourdi de voir soudain ses recherches bloquées par l'animosité des Trumpistes. Ce bras de fer contre la recherche lui a coupé les jambes. Donald Ingber de l'Institut WIS de l'Université de Harvard ne s'en remet pas. À quoi travaillait-il jusque-là? Son groupe de recherche perfectionnait une technologie appelée « organes humains sur puce ». Ce sont de petits dispositifs dotés de canaux creux et tapissés de cellules humaines vivantes. Ils sont positionnés pour recréer la structure d'organes et en mimer les fonctions, les réactions. Ce qui a permis, jusqu'ici, d'étudier comment les poumons, les intestins, la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques réagissent aux radiations afin de développer des médicaments qui peuvent atténuer les effets des radiations. À l'heure où tout le monde parle sans gêne de relancer l'industrie nucléaire, à commencer par Mark Carney, savoir comment sauver les corps du pire n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et Donald Ingber d'ajouter, pour faire image, que personne n'ira jamais sur Mars, même si Elon Musk considère que c'est la chose la plus importante au monde, à moins de trouver comment protéger les astronautes de la toxicité des radiations. Ces gens qui, comme les Musk, les Bezos et leurs semblables, dessinent l'horizon commun, oserait-on croire qu'ils savent ce qu'ils font quand on les voit s'envoyer en l'air, sans se soucier de tout voir s'effondrer sur Terre? C'était « Aller-retour pour Toronto », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.